R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma. Patrick Fontana, qui est l'auteur de cette pièce sonore, alors de ce montage, ce projet, on va commencer en fait par parler peut-être de l'origine de l'aventure. On parlera après du travail que tu as réalisé dans le montage lui-même. On parlera aussi du travail que tu as mené cette année avec ton atelier, ton groupe, avec Nicolas Richard. On va peut-être partir juste en résumé du tout début de cette aventure. Il y a maintenant de ça...
8 ans.
8 ans, hein, ça, je... 8 ans. On s'est retrouvés à une réunion d'Emmaüs. Et comme souvent dans ces établissements un peu comme ça importants, il y a quelqu'un qui lance une idée. Et je me rappelle, en fait, c'était Hélène Toulu qui, à l'époque, était responsable de l'action culturelle à Emmaüs. Ils n'avaient pas tellement d'idées arrêtées sur ce qui pouvait se passer dans le cadre d'ateliers formation de base à Emmaüs, mais en tout cas, voilà, il y avait une volonté dans cet atelier de formation de base qui sont d'ateliers d'apprentissage du français langue étrangère, mais avec un apprentissage qui est plutôt un apprentissage, on va dire, pratique, hein, apprendre pour des gens qui arrivent en France et parfois passent en France ou parfois arrivent en fait provisoirement en France, d'apprendre le français pour pouvoir se débrouiller de manière quotidienne. Et ils nous avaient sollicité avec Patrick pour présenter un projet. À cette époque-là, on était déjà comme des gens assez sérieux, mais on n'avait pas été pris vraiment au sérieux. C'est la chose qui m'a marqué dans cette réunion-là. La proposition qu'on avait portée conjointement était de contribuer donc à l'apprentissage du français langue étrangère de gens qui étaient donc de passage en France, des exilés, des gens qui avaient pour plein de raisons qui se retrouvaient en France, et de contribuer à leur formation par un atelier particulier qui avait ça de particulier, qui proposait d'accéder à la langue française par des textes de littérature contemporaine, par de la poésie, notamment par tout le corpus de Gerasim Luka. Et cette idée qui a fait son chemin, je me rappelle quand même de la consternation qu'elle avait déclenchée lorsqu'on avait parlé, qui avait quand même donné l'impression que, bon, vous êtes bien gentils dans le milieu de la culture et de l'art. Nous, on gère quand même des gens qui doivent acheter leur pain, prendre le métro. Là, vous êtes juste à côté. Et donc, quand même, moi, je pensais que ça ne se ferait jamais, ce projet. Voilà, que c'était quelque chose où on demandait de proposer quelque chose et c'était, ça n'allait pas se faire. Et finalement, l'atelier a commencé il y a 8 ans de ça, de manière un peu expérimentale, et un atelier qui est parallèle, en fait, à la formation de base avec des bénévoles de Emmaüs France. Et ça a duré pendant 8 ans.
Ouais. Ça a duré 8 ans et ça s'est arrêté en juin, faute de financement, en fait, au grand dam de la structure qui nous accueillait, en fait. Mais oui, c'était un... Ce qui est très fort dans cet atelier, c'est la rencontre avec toutes ces personnes qui viennent du monde entier et qui prennent à bras-le-corps la langue française. Et l'atelier en lui-même, c'est une espèce d'atelier où on lit à voix haute et on enregistre les choses que je proposais à l'atelier. Alors effectivement, des choses un peu de ma bibliothèque, des poètes que j'aime, que je voulais faire découvrir aux gens. Et cet atelier a produit tout un travail artistique. Avec mes camarades Pierre Yves-Fave et Alters en particulier sur des installations, des vidéos performances avec en mettant en voix ces poèmes et de les accompagner dans un dispositif, dans des dispositifs complètement différents à chaque fois. Et celui-là, il est particulièrement fort parce que c'était d'inviter Nicolas dans cet atelier et qu'il ait carte blanche pour écrire un texte. Et ce qui était très émouvant pour moi, c'était d'être pas dans un objet que je pouvais connaître ou sur lequel je pouvais avoir un point de vue, connaissant la langue. Là, c'était un autre travail de découvrir un nouveau langage, une nouvelle langue, et d'essayer de faire ce travail autour de ce texte qu'il a bien voulu écrire pour nous, qui s'appelle donc Hymne au pluriel. Et c'est une très belle expérience pour l'atelier et puis pour moi aussi.
Moi, j'ai passé la parole à Nicolas, juste peut-être pour ajouter que ce qui était aussi pour nous très, très intéressant et qui fait assez écho à ce qui se passe en ce moment, alors pour beaucoup de gens, mais disons qu'on va parler en particulier de ce qui se passe pour nous à Kiasma, de retrouver en fait une partie de ce qu'on est amené à faire comme centre d'art en accompagnement de la création, c'est-à-dire aider des créateurs, des auteurs et des artistes à créer des œuvres, et d'autre part à être emmené à travailler aussi avec toutes sortes de personnes, alors que moi j'ai pas trop l'habitude d'appeler public, mais des gens qui vivent sur le même territoire que nous, et tout ce qu'on fait avec ces gens est considéré aujourd'hui assez largement comme quand même globalement comme des activités qui sont encouragées, on va dire, pour le dire assez directement et simplement, au nom du contrôle social. Donc toute une partie de l'activité qui va être valorisée parce qu'elle occupe un peu les gens, elle essaie de, on va dire, d'administrer leur colère et de les tenir un peu là où ils sont, et tout l'autre, le reste de l'activité qu'on mène avec les artistes, qui sont un peu comme un espèce de d'organes qui seraient démembrés et qui pour nous sont la même chose en fait. Il n'y a pas d'un côté une action culturelle qui serait quelque chose qu'on a une mission de faire pour avoir le droit de faire l'accompagnement artistique, mais vraiment des recherches à chaque fois de perspectives un peu particulières. Je dis ça parce que l'époque où on se trouve, on nous demande de plus en plus à plein de structures, dont nous, de peut-être lever un peu le pied sur l'ambition artistique de ces accompagnements pour qu'ils soient simplement quelque chose qui maintient pendant quelques heures des gens en dehors de toute forme de radicalité. Et c'est vrai que voilà, moi je trouvais ça assez intéressant de se retrouver à un endroit et par une proposition de Patrick, parce qu'un lieu comme ici se construit dans un compagnonnage, et c'est pas un lieu propriétaire, c'est un lieu qui est fabriqué par ceux qui le font, les gens qui nous suivent et les artistes à qui on travaille. Et quand il y a un croisement à l'intérieur de ces univers, on a quand même accueilli Nicolas à plusieurs reprises ici pour des performances, et qu'un autre artiste propose de l'inviter à écrire pour cet atelier-là, ça faisait quelque chose qui, pour moi, redonnait une espèce de tension et d'intensité dans ce qu'on faisait, et qui ramenait effectivement l'exigence d'une recherche dans la création à des endroits où, finalement, on ne demande pas tellement, et c'est bien ça le problème, justement. Je voulais aussi peut-être juste rajouter que c'est vrai que toi, ton travail sur la langue française, ce qui me semblait aussi très important dans ce que tu as apporté dans cet atelier de formation de base, c'est que c'est vrai que pour un apprentissage de la langue administrative de la France, on est maintenant assez conscient, peut-être un peu plus maintenant qu'avant, qu'on n'est pas un pays aussi accueillant qu'on a toujours cru qu'on était. Voilà, il serait peut-être temps de s'en rendre compte quand même. Et que de fait, on n'a pas forcément une langue qui est très accueillante, puisqu'elle est quand même très exigeante, et on n'est pas un pays où on a une oreille où on supporte que les gens ne parlent pas bien la langue. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile pour des gens qui, quand même, font des gros efforts par notre langue, d'avoir des gens qui leur font répéter 10 000 fois ce qu'ils ont à dire. Et c'est vrai que l'accès qu'a proposé Patrick était intéressant parce qu'il autorisait aussi une forme de, moi j'appelle un trafic de la langue, comme avec Gerasim Luka, c'est-à-dire la langue, c'est pas simplement obéir à des codifications, mais c'est aussi pénétrer une. Quelque chose de charnel, parce que la langue, c'est la langue, donc c'est l'entrée dans le corps, et que c'est vrai que les propositions de Patrick allaient quand même vers quelque chose qui permettait aussi de rendre accueillante la langue, et puis de la rendre masticable, en tout cas travaillable avec la bouche, donc comme quelque chose qui était plus libre. Donc c'est quand même pas non plus, t'as pas choisi non plus les textes au hasard.
Oui, et puis par exemple, en 2011, au grand moment de l'identité nationale lancée par les politiques, il y avait cette question, évidemment, de comment répondre à cette injonction aux migrants et aux gens qui viennent en France d'apprendre le français avant d'arriver sur le territoire. Et donc, avec des lois qui sont évidemment de plus en plus restrictives. Et la question a été évidemment, pour moi, cruciale dans cet atelier où les gens apprenaient le français. Et à l'époque, j'avais proposé de travailler sur Baudelaire. Et Baudelaire... en tant que poète sur le piédestal des poètes français, alors que dans le 19e, il était vilipendé, sa langue n'était pas dans les canons de l'époque, merci. Et l'idée était aussi de partager sa poésie et de proposer aux migrants, aux stagiaires, de pouvoir les lire dans leur langue. Et donc, on a fait un gros travail de traduction avec des traducteurs pour deux poèmes traduits en une douzaine de langues, dont le vietnamien, le tigrinya. Vraiment, on a fait un gros travail là-dessus. Et ce qui était assez fort, c'était justement cette idée de traduction de la langue française qui résonnait fortement avec, évidemment, la question de ce que c'est que lire la poésie. Et puis, et ça crée forcément un autre rapport pour les stagiaires à la langue française, parce qu'il y avait aussi cette réappropriation de leur langue. Et dans l'atelier, il y a toujours eu cette rencontre entre les langues maternelles et le français. C'est-à-dire que ce qui était très fort, c'est de faire sonner en permanence les langues, et pas simplement le français. Et il y avait un jeu entre les gens pour découvrir que, au Pakistan, ça ressemblait un peu à l'iranien et qu'il y avait des correspondances de sonorités entre les langues. Et il y avait ce jeu qui s'installait autour du groupe et qui créait une espèce de petite communauté des langues qui était très, très forte. Voilà.
Peut-être, Nicolas, toi, tu arrives donc dans cet atelier alors qu'il est déjà sa huitième année. Il y a un monde qui est créé. Donc, peut-être tu peux nous parler de comment, justement, tu entres dans cet espace-là et puis comment tu imagines après le texte que tu proposes.
J'arrive vraiment à la fin, au mois de mars. Je viens à deux, trois séances au début, comme ça, sans trop d'idées, juste pour voir ce qui se passe, rencontrer les gens, voir comment Patrick mène l'atelier, ce qui se passe, les principes de l'atelier, puisqu'il y a aussi ce principe assez récurrent où tu demandes aussi les mots dans les langues maternelles des stagiaires. Donc chacun dit le mot et du coup, j'avais cette idée d'hymne qui traînait un peu, et là, c'était une manière de la rendre. L'idée d'un hymne imaginaire. Et là, c'est vrai que l'atelier et la rencontre avec les stagiaires, ça m'a fait. Disons que ça a rendu concret cette histoire d'hymne. Je me suis dit, mais il faut partir de leur hymne à eux, avec tout ce que ça peut poser comme problème, puisque chacun s'est positionné. On a surtout. Les rapports des stagiaires n'étaient pas les mêmes en fonction du pays d'où ils venaient. Il y avait par exemple un stagiaire qui était tamoul et effectivement il n'a pas été question d'intégrer l'hymne sri lankais, mais de faire entendre quand même sa voix, puisque il y a un principe formel du texte, c'est que chaque chapitre, chaque entrée est déclinée dans les langues des stagiaires. Enfin, il y en a neuf. Enfin, ça c'était le début. Donc du coup, ce qui m'intéressait aussi sur l'hymne, c'était que c'était aussi une manière de les rencontrer, de continuer le dialogue, d'essayer de faire connaissance avec eux, puisque c'était forcément ça les renvoyait à un pays qu'ils n'habitaient plus, quoi. Donc il y avait forcément ça créait forcément des choses intéressantes, de l'émotion souvent aussi, et après d'une manière plus disons littéraire ou technique, je trouvais ça intéressant de s'intéresser à toute cette masse de textes, parce que chaque état a en théorie un hymne, et du coup c'est une espèce d'œuvre littéraire produite par l'état, enfin par quelques auteurs, mais parfois des auteurs anonymes ou des groupes d'auteurs, et c'est une espèce de passage obligé littéraire de l'état, quoi, d'écrire des textes qui sont garnis, truffés d'académisme littéraire, de lieux communs, et l'idée c'était de les émietter pour les réactiver dans cette forme d'index poétique, de leur redonner un peu vie, et puis d'essayer de redessiner un portrait d'être humain qui transparaît en filigrane dans tous ces textes, quoi.
Je voulais rajouter qu'il y a un deuxième groupe, en fait, qui s'est agrippé à l'atelier d'Emmaüs. En fait, j'ai fait un stage au mois de juillet à l'unité d'art-thérapie de Clermont-de-Loise, donc avec des gens qui sont sous tutelle et qui sont fous, comme on dit. J'avais envie d'ouvrir en fait ce texte à d'autres voix et de les mettre tous sur ce bateau. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est des voix françaises qu'on entend dans la pièce. Et ça a créé une autre tension aussi par rapport aux autres personnes. Ça a mis... Ils se sont pas rencontrés, ça, c'est pas, mais c'est dans la construction de la pièce. C'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir cette possibilité de mélanger ces deux groupes. Et je trouvais ça très juste par rapport à la rencontre que je pouvais faire dans ce lieu qui est un lieu pour le coup très fermé, très militarisé, je dirais, enfin, quelque chose de très très rude. Et alors qu'à Emmaüs, il y a, et ça je voulais aussi le dire, c'est que si ça a duré, c'est qu'aussi la directrice de l'atelier formation de base, Rosemarie Rion, et toute l'équipe ont vraiment porté ce projet, ainsi que Kiasma et Olivier, ensemble. Quoi. Et ça, c'était intéressant aussi par rapport à la position de l'artiste dans des cases où on doit mettre les artistes dans des choses sociales avec des gens pour travailler. Il y a Mathias aussi qui fait partie d'Emmaüs. Et je te remercie d'être là. Et je pense que c'était important d'avoir aussi cette construction avec une institution, un lieu d'art, un artiste, et que ce désir-là a vraiment perduré et a construit ce travail, et pas simplement dans un projet où l'artiste est en résidence pour un an, deux ans, fait son projet et s'en va. Là, il y a vraiment... cette durée, elle est très, très forte pour nous, je pense.
Oui, c'est intéressant que tu abordes ça. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé depuis un moment, mais c'est vrai que presque comme une métastructure de ce qui se joue dans l'atelier lui-même, c'est-à-dire trouver une langue commune, se joue dans le projet lui-même avec des gens qui sont inscrits dans du travail social et dans l'insertion, la nécessité de trouver une langue commune avec des gens qui sont dans une pratique artistique et culturelle. Et moi, en tout cas, je suis parti du principe qu'on avait des déplacements à faire. On a commencé ce projet-là à un moment où les orientations politiques mettaient l'art comme quelque chose d'important et presque de manière un peu dérangeante, comme quelque chose de plus important que le travail social. En fait, c'est pas que c'est plus important, mais c'est que c'est moins cher. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui était quand même où il y avait une négociation à trouver pour être du même côté des choses et d'avoir envie de le faire ensemble, parce qu'effectivement, tout nous opposait, quoi, les temporalités de travail, le rapport à ce que à un accompagnement, il suit sur des durées qui peuvent être à la fois très longues, à la fois très discontinues, les enjeux aussi de valorisation de l'art qui vont créer soudainement des formes de visibilité, de valorisation et parfois même de capitalisation de choses qui se font, là où le travail qu'ils mènent eux, comme d'autres travailleurs sociaux, est plutôt dans l'ombre. Et donc la connivence des langues, quoi, le partage des langues et la confiance mutuelle qu'il a fallu se faire fait écho à ce qui se passe dans l'atelier. C'est-à-dire qu'on est effectivement déjà, nous, au départ, une communauté un peu disparate de la langue française, avec des problématiques qui sont différentes, et on a dû trouver un terrain dans lequel on était aussi en accord avec ce qui se construisait, que l'atelier a trouvé sa place au sein d'une formation qui quand même s'enrichissait aussi beaucoup, parce que ça aurait pu être juste un beau projet. Moi je crois pouvoir dire que ça a été, dans l'expérimentation de l'apprentissage de la langue française, c'est quelque chose qui a été vraiment une plus-value pour l'atelier de formation de base, puisque cet atelier-là s'ajoute à des ateliers plus classiques de formation de base, où les gens doivent apprendre le français, et quelque part créer, moi ce que je disais aussi, cette espèce d'accueil de la langue qui me semble être quelque chose qu'on néglige dans la nécessité technique de parler une langue, quoi, d'avoir des désirs dans la langue. Et moi je me rappelle aussi dans ces très belles choses qui passaient dans Lecture de bouche, où des passages de poèmes érotiques de Garazim Luka étaient lus par des femmes du monde et créaient donc une espèce de chose à un moment très beau de tension, en fait, et qui en dit aussi un peu long sur justement peut-être des raccourcis qu'on a sur le rapport, y compris à la question de l'érotisme dans différentes sociétés. Et ça, moi, ça m'avait aussi marqué, parce que ça nous oblige, nous aussi, à nous déplacer dans nos objets, à prendre du temps. Alors c'est vrai que là, moi, c'était aussi une discussion qu'on a encore avec nos partenaires très régulièrement, parce que moi, ce qui m'intéresse dans des accompagnements, c'est qu'on travaille longtemps avec les artistes. Et normalement, ce qu'il faut faire, en fait, si on fait bien son travail, c'est de travailler avec beaucoup d'artistes un petit peu de temps. qui travaillent chacun avec beaucoup de gens. Donc c'est ça, un peu, c'est beaucoup de gens, beaucoup d'artistes et des temps assez courts. Là, c'est vrai que moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui s'est passé aussi dans le processus d'invitation de Nicolas qu'a émis Patrick avec notre complicité, c'est qu'effectivement, en travaillant longtemps ensemble, on a aussi la possibilité que les choses se fabriquent avec les gens avec qui on travaille, comme des acteurs du projet, et pas simplement nos prestataires de services. Non, je dis ça, mais c'est une chose qui, pour nous, qui est quand même une chose très, très importante là-dedans. Peut-être que vous me direz un petit peu un mot de comment s'est construit aussi la pièce sonore. Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un découpage du texte que tu avais imaginé au départ, Nicolas, ou la pièce elle-même reconstitue un montage de ce que vous avez imaginé?
Je pense que la pièce respecte le montage, tout à fait. Ouais. Oui, non, c'était avec l'idée, c'était de faire entendre les langues maternelles de chaque participant, donc chaque entrée, chaque chapitre. Du sang, des corps, et décliné dans la langue des participants. Bon, ceux qui étaient là lors des séances d'enregistrement, malheureusement, ils n'étaient pas tous là, mais ça fait aussi partie de la matière de l'atelier. C'est qu'effectivement, j'ai intégré un hymne une fois, mais parce qu'une participante est venue une fois et n'est pas revenue, et du coup, voilà. Et non, sur la structure, oui, je sais pas ce que je voulais dire.
En fait, quand j'ai commencé à monter les enregistrements, je me posais la question de comment je pouvais avancer dans ce texte. Et j'étais en train de dessiner tous les dessins de ces migrants qui sont en train de traverser la Méditerranée. Et donc j'ai eu l'idée que ce texte, puisque ça parlait d'hymne, de trouver un endroit où il n'y avait pas de pays, donc d'être dans un no man's land, et donc d'être voilà, de mettre cette communauté de voix sur un bateau, et à partir de là, c'est construit deux niveaux de lecture, c'est-à-dire des passages où ils étaient dans ce bateau, et puis un autre passage où ils étaient spectateurs de la musique, de ces bruits de nuit debout, d'être dans un rapport, voilà, de plutôt en hauteur, quoi, comme si un jour ils étaient hommes et puis un autre ils étaient les dieux, quoi, d'être dans cette espèce de niveau un peu imaginé de ces voix qui pouvaient à la fois subir et s'amuser de ces mots. Voilà. C'était un peu le fil. Et puis j'ai au hasard, j'ai découvert le trio El Rom, la musique qu'on entend à peu près dans la musique un peu arabisante. Mais en fait, c'est un trio de jazz qui travaille avec des instruments différents. Et puis Max Richter, ce compositeur américain qui a revisité les quatre saisons de Vivaldi, avec lequel j'ai fait ses dessins. Et voilà, donc ça c'était en liaison entre mon geste de dessiner et puis de faire ce montage. Moi, je voulais juste savoir si Mathias voulait dire quelque chose sur l'atelier formation de base. Juste. Ouais, et puis l'expérience simplement. Juste pour situer mieux le projet, quoi.
Non, ça va. Mais en fait, je pense que je vais reprendre des choses qui ont été dites, parce que effectivement, dans ce centre, en fait, on propose des formations à des personnes qui sont donc en insertion sociale ou professionnelle, et on essaie de développer des formations de français qui ne soient pas trop scolaires et qui soient un peu centrées sur leurs besoins concrets dans l'environnement où elles vivent. Mais ça reste quand même assez technique, assez fonctionnel, etc. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, ce type de projet, ce type de travail, ça crée un autre rapport à la langue. Ça permet de donner aussi une certaine sensualité à la langue qu'on ne va pas retrouver forcément quand on travaille sur des choses super fonctionnelles comme... apprendre à faire une réclamation ou des trucs comme ça, c'est pas très, 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 très drôle, mais ça reste utile. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment là, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose de complémentaire par ce travail. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, parce que ça, c'est pas toujours évident, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, ces ateliers, d'une année sur l'autre, se sont ponctués par la réalisation de quelque chose. Et ça, c'est vraiment, ça donne une dynamique toujours au travail qui est proposé. Et c'est important, en fait, pour tout le monde, je pense, qu'on soit en formation, quand on aboutit à la production d'un objet, ça donne vraiment du sens au travail. Et je pense que ça a aussi permis à... Même si, il y a quelques années, c'était plus aléatoire en termes de fréquentation, parce qu'en fait, c'est aussi une des caractéristiques des personnes qui viennent en formation, quoi, de par leur situation. Je pense que ça donnait vraiment du sens, en fait, à ce travail, quoi. Donc, voilà, ça s'arrête, mais merci beaucoup.
Merci. Oui, moi je me demandais, mais c'est beaucoup plus basique et terre à terre, c'est comment les gens qui ont participé à ces ateliers sont entrés dans cette démarche. Parce que j'imagine qu'entre le migrant qui arrive, qui est effectivement relativement perdu chez nous, en ne maîtrisant pas la langue, et puis avec les conditions d'accueil qu'on connaît, lui proposer d'entrer dans des textes comme ça. J'ai un peu de mal à voir comment la mayonnaise a pris, si je peux dire. Et aussi, vous dites que ça a duré 8 ans. J'imagine que c'est évidemment pas les mêmes personnes sur les 8 ans. Donc, est-ce que vous pouvez aussi dire un petit peu comment s'est fait cette espèce de roulement, combien de temps les gens restaient, comment ils participaient, qu'est-ce qu'ils en retiraient, etc.
Alors, c'était des groupes qui duraient une année en deux sessions. Donc, il n'y avait pas forcément tous les mêmes personnes sur les deux sessions, mais peut-être, en tout cas, les gens pouvaient rester une année. Mais j'ai aussi des stagiaires qui sont restés 2 ans, même 3 ans. Pour la mayonnaise, alors, elle est... je dirais que c'était beaucoup d'attention, beaucoup de joie à sortir des mots, des sonorités, à découvrir les mots ensemble, et même pour des gens qui venaient à peine, qui étaient en apprentissage vraiment du français, il y avait une solidarité avec les autres. Donc il y avait de l'entraide, des gens qui s'amusaient vraiment avec les sonorités. C'était vraiment un cours de chant, en fait, plutôt, cet endroit. Donc ce qui était important, c'était sortir des sons. Et après, les sons, eh ben, ils prenaient sens. Mais c'était plus vraiment à s'amuser, à retrouver aussi sa propre voix, c'est-à-dire de travailler aussi de retrouver des graves qu'on oublie quand on est en train d'apprendre un langage. Donc de s'amuser vraiment avec la musicalité des langues, et à partir de là, de tisser des mots, et puis de la poésie, donc d'essayer... les textes les plus durs, c'était les plus rigolos à faire, quoi. C'était vraiment il y avait une espèce d'envie d'aller plus loin à chaque fois, et de pouvoir et puis si on comprenait pas le sens, c'était pas très grave, parce que le sens venait après, en fait. Il y avait et puis il y avait beaucoup d'idées de traduire, de dire qu'est-ce que ça veut dire, puisque comme disait Nicolas, je faisais qu'est-ce que c'est que le mot nuage. Alors, le mot nuage, c'est dans toutes les langues, c'est ça. Donc il y avait c'était un dialogue qui s'est installé entre les langues et plus un dialogue musical, quoi. Donc la mayonnaise, alors elle prenait, puis des fois elle prenait pas, hein, c'est aussi l'aléa aussi des choses, mais c'était pas grave, en fait, parce que c'était en plus, donc c'était pas grave, en fait. Donc il y avait à peu près des fois 25 personnes dans l'atelier, puis des fois 6. Voilà, c'était très aléatoire parce que justement ces personnes sont dans la précarité. Donc il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de difficultés, mais aussi une envie de. Puis il y avait aussi l'idée d'aller à la radio. Donc on a eu plusieurs aussi. Il y avait aussi une dimension d'aller enregistrer dans un lieu, dans un autre lieu que l'atelier formation de base, et ça c'était aussi une autre expérience qui était vraiment très intéressante pour ces personnes, quoi.
Je pense qu'il faut s'imaginer, on sait qu'on se retrouve certaines années que moi j'ai suivies d'un peu plus près, c'est que peut-être aujourd'hui le terme de migrant envoie une géographie un peu plus particulière. Là, c'est qu'on est avec un atelier où il y a, je sais pas, quelqu'un du Tadjikistan, un Algérien arabe première langue, des gens d'Afrique noire, des Russes, des... Là, on n'est pas du tout sur des communautés de migrants avec deux pays, hein, on est sur 20 pays, quoi. Donc ça, c'est aussi une particularité où, qui est très... Moi, j'ai les ateliers que j'ai pu suivre, où on se retrouve vraiment, effectivement, avec cette diversité-là, qui est encore autre chose que l'idée d'une communauté migrante qu'il y a dans un pays, parce que là, quelque part, le fait qu'il y ait pas mal de pays représentés crée une espèce d'équilibre et d'équivalence qui est un peu différente, je pense, que de venir...
Ouais, je dirais, c'est vrai, en fait, qu'il y a une très grande diversité, à la fois en termes d'origine... Mais en termes de profil, de situation, en fait, je dirais que c'est beaucoup plus nuancé que... bon, là, actuellement, avec l'actualité, forcément, on a une représentation du monde et de l'univers des migrants qui est très liée à tout ce qu'on entend en fait, sur les migrants et qui est aussi une réalité. Mais en fait, cette réalité existe. Ça fait partie des personnes qu'on va recevoir. Mais il y a aussi tout un panel. Il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps. Ils ne sont pas tous forcément dans la même précarité, même si la précarité existe. Il y en a qui ne sont même pas dans la précarité. Il y en a qui le sont beaucoup. Il y a vraiment des parcours très, très différents. En fait, ça crée vraiment une très grande diversité. Et puis, dans les groupes, hein, enfin, en moyenne, parce qu'on recherche aussi à avoir cette diversité, sur des groupes d'une douzaine de personnes, on a en moyenne 8 langues maternelles différentes, quoi. Donc... Ça fait vraiment beaucoup de diversité. Ouais.
On va peut-être proposer à Nicolas de poursuivre et de terminer la soirée avec une suite d'hymnes.
Oui, du coup, en travaillant pour l'atelier, pour Patrick, cette idée d'hymne a un peu germé. Enfin, en même temps que j'ai voulu travailler sur les hymnes des participants, je me suis dit qu'il fallait que je travaille sur les hymnes du monde entier et fait commencer ce travail d'indexation poétique. Du coup, pour ce soir, je me suis consacré, j'ai sélectionné les États du continent africain et les États d'Amérique du Sud. Ça fait à peu près 88 hymnes, un peu moins puisque j'ai pas tout traité, puisqu'il y avait des problèmes de traduction. Mais du coup, et j'ai sélectionné des entrées pour que ça fasse une durée très raisonnable de lecture. Voilà.